Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, en direct du salon, toujours. Nous sommes le mercredi 19 mars 2025. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sous peu, nous allons toutes et tous recevoir un petit livret dans nos boîtes aux lettres. L'expéditeur, le gouvernement, le contenu de cette vingtaine de pages, les pratiques à adopter pour se préparer et réagir en cas de crise. Fuite radioactive, épidémie, événements climatiques graves, conflits armés. Selon l'entourage du Premier ministre qui s'est adressé à l'AFP et à France Info, ce document a vocation à assurer la résilience des populations face à tout type de crise, qu'elle soit naturelle, technologique, cyber ou sécuritaire. Toujours selon les mêmes sources, ce document ne viserait absolument pas à préparer les Français et Françaises à une guerre. Contrairement à celui édité par la Suède l'an passé. L'idée, apparemment, aurait plutôt germé après la crise du Covid. L'annonce intervient pourtant en plein réarmement mondial, alors que les relations entre l'Europe, les États-Unis et la Russie sont au plus mal. On devrait le recevoir d'ici cet été, j'ai hâte. En attendant, le flash tagline.
S'accuse mutuellement d'attaques aériennes dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le premier accusant l'Ukraine d'aller à, je cite, « l'encontre des efforts russo-américains pour régler le conflit » et affirmant avoir détruit une soixantaine de drones. Kiev, de son côté, déplore des frappes contre des structures civiles, notamment deux hôpitaux. La Russie a tiré 6 missiles et 145 drones pendant la nuit, faisant un mort. Cela intervient au lendemain d'un appel très important entre Donald Trump et Vladimir Poutine concernant la situation russo-ukrainienne. Après plus de 2 heures, le président russe concédait finalement un cessez-le-feu de 30 jours sur les infrastructures énergétiques. Pas de trêve absolue tant espérée, donc, Vladimir Poutine considérant que les conditions comme la démilitarisation de l'Ukraine ne sont pas remplies. Et aujourd'hui, Volodymyr Zelensky devait s'entretenir avec Donald Trump sur les prochaines étapes de négociations, négociations qui se poursuivront avec des pourparlers dimanche à Djeddah en Arabie Saoudite entre la Russie et les États-Unis.
T'inquiète, Aglaé, tant qu'on a notre petit livret, ça ira.
Tout va bien. 970 personnes ont perdu la vie en 48 heures. Des frappes israéliennes, voilà le nouvel an, le nouveau bilan du ministère de la Santé du Hamas. Pardon. Parmi elles, un employé de l'ONU tué selon une agence onusienne par un engin explosif largué ou tiré sur un de leurs bâtiments. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui que ses soldats sont entrés dans la bande de Gaza pour des opérations terrestres ciblées dans le centre et dans le sud. Le Hamas, quant à lui, veut poursuivre le cessez-le-feu et a exigé d'Israël la cessation immédiate des hostilités et a commencé la seconde phase des négociations. Emmanuel Macron a lui regretté que le retour des frappes israéliennes depuis lundi constitue un retour en arrière dramatique. Le bilan de la guerre avec Israël s'élève donc en tout à 49,547 morts. Fin de partie pour la famille Bolloré en Afrique. 11 ONG, je vais m'en sortir.
Ça va aller, on aura notre petit livret, t'inquiète pas.
Ça va m'aider sur la prononciation.
Ouais, je pense.
Il y aura l'alphabet dedans.
C'est en cas de situation de crise.
Ouf, ça va alors. Alors
11... Crise de flash.
11 ONG rassemblées sous le nom de Restitution Afrique RAF ont déposé plainte hier contre le milliardaire breton et son fils Cyril, et ce pour des soupçons de recel et de blanchiment d'actifs lors de plusieurs concessions portuaires. Cyriane nous détaille l'affaire.
Financement de campagnes électorales, responsable politique nommé administrateur des filiales du groupe, contrat attribué sans appel d'offres, voilà les pratiques recensées dans au moins 5 pays africains, Togo, Guinée, Ghana, Cameroun et Côte d'Ivoire, par les ONG et constituant donc la plainte. Vous le savez déjà peut-être, mais la famille Bolloré possède un véritable empire logistique en Afrique. Du moins jusqu'à la revente de sa filière Bolloré Africa Logistics, cédée en 2022 pour un montant de 5,7 milliards d'euros à l'armateur Italo-Suisse MSC. La branche logistique employant plus de 20 000 personnes dans plus de 20 pays sur le continent africain et possédant notamment un réseau de 16 concessions portuaires, des entrepôts et des hubs routiers et ferroviaires.
Et donc plus précisément, de quoi est accusée l'entreprise ?
Alors la plainte déjà ne vise pas uniquement le groupe, mais aussi des politiques ou administratifs locaux accusés pour des faits de recel, de favoritisme, de trafic d'influence ou encore de prise illégale d'intérêt. En gros, comment Bolloré a réussi à obtenir toutes ces nombreuses concessions de terminaux à conteneurs et d'en arriver à cette situation de quasi-monopole de cette région d'Ouest Afrique. Par exemple, au Ghana, en 2014, le groupe breton associé à l'entreprise Maersk aurait, selon la plainte, convaincu le président John Dramani Mahama d'attribuer le contrat du port de Tema à sa société Adoc Meridian Port Service de manière secrète et sans appel d'offres, alors que 56 entreprises étaient déjà positionnées. Et ce n'est pas le seul motif requis contre le groupe industriel, puisqu'il est aussi accusé de blanchiment. Pour cause, la revente de sa filiale, donc, comme je l'ai dit, à 5,7 milliards à MSC. Ce que les ONG considèrent comme un, je cite, bien mal acquis, au regard de la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Ainsi donc, si le groupe Bolloré était condamné grâce à cette loi, alors ces 5,7 milliards permettraient la création d'un dispositif de restitution transparente des biens mal acquis aux populations de ces pays, aux pays d'origine des fonds. Bref, cette plainte est tout simplement inédite et permettrait, si elle aboutit, à créer un précédent juridique contre les autres multinationales accusées d'exploiter les ressources et infrastructures acquises de manière frauduleuse à l'étranger, comme l'a rappelé le collectif. Mais aussi et surtout, rendre cet argent volé représentant, selon Jean-Jacques Lumumba, à la tête du collectif Résilience Afrique, moins d'hôpitaux, moins d'écoles, moins de routes, moins de projets d'infrastructures, un avenir enlevé aux jeunes de ces pays.
Le groupe Bolloré avait déjà fait part d'une enquête du même type en 2013, requise par la justice française. Cette fois-ci, aussi après l'attribution des ports de Lomé au Togo et Conakry en Guinée, Vincent Bolloré avait cette fois-ci utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Euro-SRSCG devenue Havas pour aider frauduleusement les campagnes présidentielles de 2010 de Faure Gnassingbé et Alpha Condé au bénéfice de Bolloré Africa Logistics. Le groupe avait par la suite négocié un accord lui permettant de s'acquitter d'une amende de 12 millions d'euros contre l'abandon des poursuites. En 2024, le parquet financier a quant à lui requis un procès pour corruption et complicité d'abus de confiance contre Vincent Bolloré. 6,6 tonnes de cocaïne en 2024 ont été saisies en zone gendarmerie, c'est-à-dire les villes moyennes ou les territoires ruraux, contre près de 700 kilos en 2022. Tels sont les chiffres de la gendarmerie nationale dévoilés par ICI. Les saisies se font majoritairement au port du Havre, dans les Antilles ou sur le littoral du nord de la France. Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie, explique la hausse par la démultiplication des zones dans lesquelles on peut trouver de la cocaïne, et notamment à la campagne. Frédéric Ploquin, journaliste d'investigation, avance aussi le fait auprès de France Info que les dealers à la campagne, la gendarmerie ne les a pas vus venir au début, puis elle s'y est mise et les chiffres des mises en cause ont mécaniquement augmenté. Pardon. La pandémie du Covid-19 aurait également eu un rôle à jouer concernant la consommation et la façon de se procurer de la cocaïne. En plus de cette drogue, les saisies d'ecstasy sont aussi en hausse. Il est temps de siffler la fin de la récréation. C'est en ces termes que Maryse Léon, secrétaire générale de la Confédération française démocratique du travail, CFDT, s'est exprimée sur BFM TV à propos du conclave sur les retraites. Après le rejet de François Bayrou de revenir à la retraite à 62 ans et le départ aujourd'hui de l'Union des entreprises de proximité dans les négociations, la CFDT annonce vouloir changer les règles du jeu et que le conclave ne peut pas avoir lieu tel qu'il existe. De son côté, Cyril Chabanier, président de la Confédération française des travailleurs chrétiens, a aujourd'hui appelé à continuer les débats, mais explique qu'il n'est plus possible de continuer à travailler avec des interférences gouvernementales ou d'hommes et femmes politiques tous les 4 matins. Une prochaine réunion entre partenaires sociaux devrait avoir lieu demain. Des nouvelles maintenant concernant l'université Rennes 2. Dans un communiqué paru aujourd'hui, la présidence de cette dernière a annoncé avoir fait appel aux forces de l'ordre afin de déloger les étudiants et étudiantes occupant les locaux du bâtiment B. Ils et elles protestaient contre les coupes budgétaires ou politiques d'austérité dans l'enseignement supérieur. Selon le communiqué de l'université, l'intervention à 6h20 de la police s'est déroulée dans le calme et sans incident. La présidence s'est justifiée par le fait, je cite, d'une impossibilité à négocier avec l'AG étudiante et que cette occupation menaçait le déroulement de nos missions de service public et mettait particulièrement en jeu la qualité de nos formations et de nos diplômes. L'Union Pirate de Rennes 2, syndicat étudiant, a réagi sur les réseaux sociaux, qualifiant ce choix de scandaleux et honteux. Toujours est-il que le campus Villejean restera fermé au moins jusqu'à vendredi. Autour de 700 plats de bœuf bourguignon, voilà la quantité prévue demain par le CAP Boucher de CMA Chambre des métiers et de l'artisanat de Bretagne pour leur première action solidaire auprès des étudiants et étudiantes rennaises. Hier matin, dans une salle à 3,2 degrés, Eva a pu faire la connaissance des 25 élèves du CAP porteurs et porteuses de ce projet, ainsi que d'un de leurs formateurs.
Tout a commencé avec leur professeur, M. Conan.
L'idée que j'ai eue, c'est suite à un reportage que j'ai vu sur France 3, qui montrait la précarité étudiante.
Et pour la suite, c'est Cathy et Alexandre, deux élèves en pleine préparation de l'événement, qui racontent.
Il y a des morceaux en fait, qui existent dans le bœuf, qui ne sont pas forcément chers et qui peuvent être consommés et qui sont très très bons. Qui est assez long à préparer, en fait, il faut quand même pas mal de cuisson et les étudiants n'ont pas forcément le temps de le faire. Donc c'est pour ça qu'on propose par exemple un bourguignon. Cette année, en fait, on a un projet à mettre en place sur l'année et on a, avec l'appui de notre professeur, mis en place en fait, une distribution gratuite de plats. On a fait appel à des abattoirs, donc on a fait appel à... Du coup, c'est galets et viandes. On a aussi travaillé avec de la volaille. Donc, du coup, on a fait appel à Vol France pour avoir de la volaille. Donc après, nous, là, aujourd'hui, on va commencer à préparer la viande. Demain, on désosse. Demain, en fait, les traiteurs vont préparer la viande. Et jeudi, on la distribue sur les sites.
Et nous, on va être plus en charge de rechercher les différents ingrédients. Et puis d'organiser l'acheminement des plats, et puis la communication pour faire connaître le projet.
Après, on sait que y a forcément de la population qui est végétarienne. Après, nous, on est bouchés, donc on va proposer de la viande là-dessus, cette fois. Après, on sait qu'il y a du flexitarisme aussi, et les gens préfèrent acheter de la viande de meilleure qualité, mais moins souvent. Donc je pense que c'est plus là-dessus qu'on se tend content.
En partenariat avec les épiceries gratuites des campus universitaires, les élèves des facultés de Beaulieu et de Villejean sont invités à se présenter demain de 17h à 19h pour une distribution gratuite de repas sur leur campus. 10 507 euros pour l'environnement. Cette somme, c'est celle récoltée par la dernière édition des Transmusicales grâce au dispositif de la contribution environnementale. Une opération mise en place depuis 3 ans par l'organisation pour compenser son bilan carbone et prenant la forme de dons. Artistes, publics, médias, partenaires, invités, équipes, tout le monde y a participé, aussi bien en ne récupérant pas son gobelet qu'en donnant quelques euros en plus lors de l'achat de son billet. Et cet argent a été envoyé à deux associations, Sivam Bretagne et Envie Bretagne, deux structures engagées dans des projets de transition écologique et sociale. La première dans l'agroécologie et le bio via l'éducation populaire et la seconde dans le réemploi et la réduction des déchets électroménagers et multimédia via l'insertion professionnelle.
Merci Aglaé.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Cyrielle, je crois que tu avais prévu d'inviter quelqu'un chez moi ce soir, mais tu es seule.
Et non, je suis seule, car en effet, nous étions censés ce soir recevoir le festival Sirène. Mais ayant lieu principalement à Rennes 2, le festival est annulé. Le campus est enfermé, comme l'a expliqué Aglaé. Parce qu'en effet, depuis janvier, personnel, étudiants et étudiantes de la fac se mobilisent contre la mise en place de mesures d'austérité budgétaire dans le monde universitaire. Lundi, l'occupation du bâtiment B du campus de Villejean ayant été votée par l'AG de Rennes 2, la présidence a donc décidé de suspendre l'ensemble des activités ayant lieu dans l'ensemble de la faculté pour la semaine au moins. Blocage ayant été levé par la police, comme tu l'as dit, Aglaé. Cependant, Sirène a tout de même tenu à conserver deux événements. La première, c'est une rencontre avec l'autrice Liz Chrysler à la librairie Nilmé, vendredi 21 mars, de 17h30 à 19h. Et puis, la deuxième, c'est le spectacle « Le siège du pilon d'or » par la troupe d'Embrun d'Acier, suivi de séances de dédicaces de Marielle Carosio, Morgan of Glencoe, Noémie Lemo et Jean Milman. Et tout ça, on le retrouve à la cité universitaire Sévigné, boulevard Sévigné, évidemment, de 18h à 20h30, samedi 22 mars. Et bien évidemment, tout ça est gratuit.
Voilà, et puis on envoie, toute l'équipe de Scilab envoie son soutien à l'équipe de Sirène, qui, pour qui ça ne doit pas être facile en ce moment. Mais voilà, on pense bien à LDE.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Scilab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Nous tenions à revenir sur les événements qui ont eu lieu la nuit du samedi 8 mars lors d'une free party à Rennes dans l'ancien cinéville des Colombiers. Et pour ça, nous écoutons une chronique réalisée par Zoé de Radio U qui nous fait part d'un témoignage de la soirée.
Et au fait, qu'est-ce t'en penses, toi ?
Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique. Mais quand je vois tout le trafic, on ne peut pas rester pacifique.
Dans la nuit du 8 mars dernier, a eu lieu une free party dans l'ancien cinéville des Colombiers à Rennes. Une fête féministe, antifasciste et qui avait pour but principal la revendication et le droit à la fête libre et bienveillante. Une communauté rassemblée autour d'une volonté d'écouter de la musique et de danser. Ce qui n'a apparemment pas plu au co-directeur de la boîte de nuit juste à côté, Jovan Delorme, dit le Jarl, influenceur d'extrême droite accompagné de ses agents de sécurité. Vous en avez sûrement entendu parler, plusieurs médias ont publié des articles sur les événements de cette nuit-là, relatant les altercations entre les personnes présentes à la fête et les agents de sécurité du 8-8. Mais nous tenions à nous exprimer sur ce sujet et à apporter notre témoignage, car nous y étions. Une organisation avait été établie pour le bon déroulement de la soirée et la sécurité des personnes y participant. Des préventions, cas d'intervention de la police, des prises en charge des personnes pouvant ne pas se sentir bien, tout dans l'unique but de créer un climat de bienveillance. Deux salles étaient occupées à l'intérieur du cinéma. La principale, dédiée à la musique, où la foule se tenait devant une scène, attendant patiemment le début de la musique. Puis une autre, plus calme, pour se reposer. Avant de lancer le son, une annonce est faite, rappelant les mesures de sécurité et les raisons de l'organisation de cette soirée, l'envie de partager des moments de fête en toute sécurité. La musique commence et la foule profite sagement de la soirée. À l'extérieur, certaines personnes continuent de rentrer, mais très vite, on nous fait comprendre que les entrées ou les sorties sont compromises. Quelque chose se passe à l'extérieur. On ne s'inquiète pas trop, ça va passer. Les participants prennent place dans les deux salles et profitent de la soirée, mais la tension et l'inquiétude de ce qui peut se passer dehors montent petit à petit. Comme prévu, au début de la soirée, les départs se font en groupe pour plus de sécurité. Alors plusieurs personnes commencent à quitter les lieux. On se dit que c'est normal. C'était prévu comme ça. En réalité, la police était déjà sur les lieux et menaçait le bon déroulé de la fête. D'un coup, les gens commencent à s'agiter. Et dans la salle calme, on alerte. Le gaz se fait sentir. Tout le monde se lève et se rue vers la sortie. Un énorme mouvement de foule se crée, mais les seules sorties disponibles sont bloquées par la police et par les agents de sécurité du 8-8 qui sont entrés et ont gazé certaines participants et participantes avec des gazeuses. Du gaz entre par les bouches d'aération du cinéma, nous sommes environ 300 à l'intérieur. On comprendra plus tard que c'est l'équipe du Jarl qui a balancé du gaz dans les bouches d'aération. L'air est irrespirable, les gens toussent, se bousculent, certains font des malaises, vomissent, d'autres se sont pris des coups dans l'agitation. Une première sortie est découverte à côté des toilettes et les personnes n'allant pas bien sont évacuées en premier. Plusieurs personnes sortent par un trou dans le plafond, mais se sont attendues à la sortie par la police qui gaze, sans se poser de questions. Une partie de la foule sort par l'entrée principale, où le climat est plus serein. On les prévient de ne pas s'agiter, de rester calmes. Maintenant qu'ils sont sortis, les choses vont se tasser. De l'autre côté, une bonne partie se retrouve sur les toits, au-dessus de l'entrée de la boîte de nuit, avec pour seule issue un escalier. Qu'une envie, partir, sortir de cet enfer. Mais en bas de l'escalier attend un agent de sécurité gazeuse à la main. Il n'hésite pas à agresser ceux qui descendent au hasard, ce qui va à l'encontre de l'article L122-5 du code pénal, ainsi que l'article L613-5 du code de la sécurité, qui stipule que les armes de catégorie D, telles que les gazeuses, ne peuvent être employées qu'en cas de légitime défense. On nous hurle dessus, on nous menace, les uns après les autres, et la tête dans les bras, tout le monde descend. À côté de la boîte, deux agents maintiennent et frappent une personne au sol. Beaucoup de personnes restent pour prendre soin de ceux qui sont en difficulté et aider avec eux les lieux. Certains s'expliquent et essayent de raisonner les agents de sécurité qui restent violents, autant verbalement que physiquement. Certaines personnes répliquent avec des insultes à leur encontre, mais essayent de garder leur distance. On quitte les lieux en essayant de reprendre nos esprits et notre respiration, les poumons toujours endoloris. Déjà considéré par certains comme une milice, l'équipe du 1988 Club y ressemble de plus en plus. Un tour sur les réseaux sociaux de l'influenceur d'extrême droite suffit pour s'en rendre compte. Il ne manque pas à rappeler à France Télé qu'il a repris la dalle du Colombier avec les poings, usant d'un vocabulaire guerrier à l'image de son surnom Jarl, littéralement chef de guerre dans la culture viking. Le rassemblement qui avait lieu autour de ce cinéma fut pour eux une porte d'entrée afin de ressembler de plus en plus au shérif du quartier qu'ils rêveraient de devenir. C'est d'ailleurs l'argumentaire qu'ils développent sur la plus grande plateforme de l'extrême droite française, TPMP. En somme, comme on le cite, « Comment ça, on n'a pas le droit de faire justice nous-mêmes ?» ne manquant pas, comme à l'habitude dans cette émission, d'user de la post-vérité. Il reconnaît lui-même dans cette émission la participation de personnes de son club n'étant pas du tout agent de sécurité. Il reconnaît également avoir confisqué des téléphones qui auraient filmé ses clients. On peut légitimement se demander si ces téléphones n'avaient pas plutôt filmé des scènes compromettantes pour l'ancien Quantidia Reconquête.
Merci à Zoé et à Radio U, la Radio Campus de Brest, pour ce partage.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
C'était pas la bonne virgule, mais c'est pas grave, t'inquiète, Timothée. Notre répondeur est vide ce soir, mais vous le savez peut-être, vous pouvez nous laisser un message vocal pour nous dire à peu près tout ce que vous voulez. On le diffuse à la fin de l'émission. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Et puis avant la fin de cette émission, je voulais vous dire qu'il y a deux jeux concours en ce moment. Le premier, c'est pour la soirée canine. Ça se passe le vendredi 4 avril à l'UBU. Une soirée bass break IDM, une programmation sélectionnée par Suis-je fou ? Hassan Abou Alam, Small Crab, Random Copy, qui se succèdent toute la nuit. Donc, soit vous pouvez gagner une place pour cette soirée, soit vous pouvez gagner un vinyle ou un CD du nouvel album de Suis-je fou. Pour ça, un mot de passe.
Parapente.
Yeah.
Yes. J'avais
oublié. Parapente, en référence à notre partenaire, la maison de disques Rennaise, qui vous offre ses lots. Et puis le deuxième jeu concours du moment, c'est pour un spectacle du Triangle, par d'autres voix, d'Ambras Senatori. Ça se passe le jeudi 3 avril à 20h. Et cette fois, le mot de passe pour jouer et gagner, c'est...
Qui a...
Ouais.
Feu.
C'est ça. Donc rendez-vous sur c-lab. Pour jouer. Merci Timothée pour la technique et à demain dans 6h avant minuit.
Si la lève. La radio sauvage.
Et le reptile.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.